La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale.
Dans cet épisode, nous recevons Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damon, bonjour.
Bonjour.
L'épisode qui nous rassemble aujourd'hui va porter sur les sans-abri et la protection sociale. Pour commencer, pouvez-vous définir de qui parle-t-on ?
Eh bien, ce sujet est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que tout le monde croise des personnes sans-abri dans la rue, mais c'est compliqué car les personnes complètement à la rue sont la face émergée de l'ensemble des difficultés de logement. Si on est plus concret, les sans-abri, ce sont les personnes qui dorment dehors, qui vivent dans l'espace public, et on baptise plus largement sans domicile, c'est un vocabulaire INSEE, ces sans-abri qui sont complètement dehors, mais aussi, et ces personnes sont bien plus nombreuses, toutes les personnes qui sont dans des centres d'hébergement. Et alors vous allez me demander, combien sont-ils ? On peut citer des ordres de grandeur, plutôt que des chiffres extrêmement précis. Les sans-abri sont maintenant mieux connus parce qu'il existe des décomptes qui sont réalisés dans les grandes villes. Ils sont, ainsi, une nuit donnée, quelques milliers en Île-de-France, Île-de-France qui concentre la problématique. À l'échelle nationale, les sans-domicile, donc les gens complètement à la rue, mais surtout les gens hébergés, les sans-domicile, une nuit donnée, sont plus de 300 000, car il existe plus de 300 000 places d'hébergement à l'échelle nationale.
Et alors, quelles sont leurs situations en matière de protection sociale ?
Il faut commencer par dire qu'il s'agit d'une population très hétérogène, ce qui retentit sur la situation des personnes en matière de protection sociale. On trouve des Français, mais aussi, et en particulier dans les centres d'hébergement d'urgence, une proportion très importante de sans-papiers. Et donc, ça n'ouvre pas les mêmes droits à la protection sociale. On trouve des personnes âgées pensionnées, retraités, on trouve des jeunes sans famille qui viennent de sortir de l'aide sociale à l'enfance, on trouve des familles qui viennent de basculer à la rue ou qui viennent de basculer vers un centre d'hébergement, on trouve des messieurs qui sont depuis très longtemps à la rue, très abîmés par l'existence. Cela dit, ça ne sert à rien de répéter en permanence qu'il y a hétérogénéité, il faut souligner une caractéristique commune qui est évidente mais qu'il faut rappeler, ce sont des personnes pauvres et ce sont les plus pauvres parmi les pauvres. Alors, au sujet de la protection sociale, il faut faire un petit retour historique. Auparavant, les sans-abri relevaient à l'échelle de l'État, d'abord du droit pénal. Les délits de vagabondage et de mendicité qui frappaient d'indignité les personnes errantes, eh bien ces délits n'ont été supprimés du code pénal qu'en 1994. Il y a donc peu de temps. Et les personnes à la rue, les personnes dans les centres d'hébergement, aujourd'hui, relèvent principalement du droit social et des dispositifs en direction des personnes exclues. En matière d'hébergement, je suis là toujours sur le registre de la protection sociale singulière, eh bien, en matière d'hébergement, des efforts considérables ont été faits depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la dépense d'hébergement pour les sans-domicile, parmi lesquels il faut compter les demandeurs d'asile, équivaut à plus de 10% des dépenses publiques pour le logement. L'hébergement, aujourd'hui, c'est plus de 10% de la politique du logement.
Mais au-delà du logement et de l'hébergement, que peut-on dire sur la protection sociale ?
Vous avez raison, il n'y a pas que le sujet de l'hébergement. Mais si on raisonne sur la protection sociale en général, il faut d'abord souligner la révolution qu'a été le RMI en 1988. Ce revenu minimum d'insertion, devenu RSA, revenu de solidarité active, avait parmi ses objectifs de mettre fin à la mendicité. Cette visée n'a pas vraiment été atteinte, mais l'idée était bien de traiter des cas de grande marginalité. Une partie des sans-domicile touche par ailleurs l'allocation aux adultes handicapés. Au-delà des seules prestations d'aide sociale, d'assistance, il faut aussi avoir à l'esprit que la plupart des sans-domicile ont des droits ouverts pour leurs soins de santé, qu'ils passent par la protection maladie universelle ou par l'aide médicale d'État. Certains, sans abri, sans domicile, touchent des retraites, touchent des rentes d'accidents du travail. Ceux qui vivent avec des enfants, en hébergement ou même à la rue, peuvent toucher des prestations familiales. En fait, nombre de sans-domicile ont des relations très nourries avec les organismes de protection sociale, qu'il s'agisse des caisses de sécurité sociale, au premier rang desquelles les caisses d'allocation familiale, mais aussi d'autres institutions sociales, comme les centres communaux d'action sociale, les CCAS des municipalités. Enfin, dernier mot de ce rapide panorama sur la protection sociale, eh bien, contre l'image d'une population qui serait totalement à côté du monde du travail, il faut aussi noter qu'une partie, certes réduite et sans domicile, travaille. Non seulement ils sont couverts par la protection sociale, mais ils cotisent. Eh bien, on peut les baptiser les travailleurs très pauvres.
Et comment les sans-domicile peuvent-ils faire valoir leurs droits s'ils n'ont pas de logement ?
C'est une excellente question, comme toutes vos questions, mais c'est celle qui, en effet, peut, sur ce sujet des sans-abri, venir le plus immédiatement à l'esprit. Eh bien, puisque, à la rue ou dans des centres d'hébergement, ils ne sont pas dans ce que l'INSEE baptise du logement, entre guillemets, ordinaire, ces sans-abri, sans domicile, échappent d'abord aux statistiques les plus communes. Petit paradoxe, les plus pauvres sont absents des statistiques de la pauvreté. Surtout, pour reprendre votre question d'un point de vue plus pragmatique, il est difficile de faire valoir vos droits quand vous n'avez pas d'adresse. Alors à cet effet, vous avez un dispositif, vous pouvez bénéficier d'une domiciliation. Il s'agit de l'adresse d'un CCAS, ces centres communaux d'action sociale, que nous avons évoqué, l'adresse d'un CCAS ou d'une association agréée. Vous disposez alors d'un justificatif de domicile et d'une adresse, ce qui vous permet de recevoir du courrier. Ce dispositif vous permet d'accéder à des droits et prestations. Vous pouvez par exemple vous inscrire sur les listes électorales si vous avez le droit de vote. Et vous pouvez gérer ou faire gérer vos droits sociaux.
D'ailleurs, sur ce sujet, les associations jouent un rôle très important, non ?
Absolument. Ce sont certainement les acteurs clés de ce dossier. Historiquement, depuis des siècles, les œuvres auparavant, mais aussi maintenant. Aujourd'hui, une grande partie de leur activité à ces associations, notamment sur le registre de l'hébergement, est financée par l'État. Mais ce sont elles qui assurent la gestion concrète, quotidienne, des dispositifs. Et avec leurs bénévoles, elles apportent à la fois de l'innovation et ce supplément d'humanité qui doit limiter les contraintes bureaucratiques, notamment pour des personnes qui sont dans les situations les plus compliquées que l'on puisse trouver en matière de protection sociale.
Pour finir, ces politiques de prise en charge des sans-abri sont-elles efficaces ?
D'abord, il faut admettre que ces politiques sont particulièrement denses. Les dépenses françaises pour l'hébergement des sans-domicile correspondent au tiers des dépenses européennes en la matière, ce qui est colossal, parce que la France, ça n'est pas le tiers de la population européenne. Alors, sont-elles, avec les autres dépenses sociales, efficaces au regard de l'ambition qui serait de ne plus avoir de personnes contraintes à dormir dehors ? Eh bien, il suffit de passer dans les rues des grandes villes pour voir qu'il y a encore du chemin à faire. Ceci dit, pour conclure, il faut considérer que la question des sans-abri, et plus largement celle des sans-domicile, n'est pas isolée des autres questions sociales. Toutes ces situations difficiles sont la forme extrême de toutes les difficultés sur les plans du logement, de l'emploi, de la famille, de la santé, de la psychiatrie. Elles ne peuvent pas se comprendre isolément de toutes les questions sociales et de toutes les politiques sociales. À ce titre, se pencher sur les sans-domicile et sur leur prise en charge est une façon d'évaluer l'ensemble des politiques publiques qui ont pour ambition globale de réduire au maximum ces situations d'indignité.
Merci beaucoup pour cet éclairage.
Je vous en prie.
Vous venez d'écouter Parlons Peu, Parlons Sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.